Bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Gwendoline Troiano, Mélanie Chalandon, Barthélémy Gaillard, Bertie Bourdon et Nora Litoussi, réalisé par Vivian Lecuivre. Et à la technique ce matin, c'est Guillaume Ficheux. C'est le deuxième épisode de notre série consacrée aux aspirations à des systèmes politiques plus ouverts dans les pays d'Asie du Sud et du Sud-Est. Nous parlions hier de la Birmanie, où les civils qui ont rejoint les forces de défense du peuple sont aujourd'hui estimés à 65 000 face à une junte qui s'accroche au pouvoir. Nous évoquerons demain la Thaïlande, où l'opposition a bien du mal à se faire entendre face à une monarchie intouchable. Aujourd'hui, le Pakistan. Les deux grandes familles politiques traditionnelles vont se partager le pouvoir, malgré leur moindre score aux élections législatives début février face au parti d'Imran Khan, le PTI.
La manifestation d'aujourd'hui a été organisée par les partisans du PTI contre les forces qui ont confisqué le pouvoir. Ces forces n'acceptent pas le choix de l'opinion publique et pensent qu'elles peuvent imposer leurs décisions sur le peuple.
Aujourd'hui, nous avons décidé de former un gouvernement commun pour faire sortir le Pakistan de la crise, si Dieu le veut. Nous devons mener à bien la réconciliation et le PTI en fait partie. Chaque force politique devrait prendre part à cette réconciliation.
Mia Mohammad Shehbaz Sharif Saïb a obtenu 201 voix. Ensemble, nous avons décidé que nous devions procéder à une opération chirurgicale en profondeur. Nous devons apporter des changements révolutionnaires au système. Si Dieu le veut, nous ferons du Pakistan un grand pays et nous irons de l'avant en levant la tête avec fierté.
Au Pakistan, le scénario de l'alternance au pouvoir est toujours écrit bien à l'avance par l'armée, selon ses affinités du moment. Elle donne un rôle de premier plan, soit au clan Sharif, soit au clan Bhutto. C'est ainsi que la vie politique pakistanaise s'écrit depuis à peu près la création en 47. Alors finalement, pourquoi des élections? Sauf que cette fois, tout ne s'est pas passé comme prévu. Pour les dernières législatives qui se tenaient le 8 février, l'armée avait manifestement choisi le clan Sharif. Pour preuve, elle avait fait revenir de son exil à Londres l'ancien Premier ministre Nawaz Sharif, mais son parti, la Ligue musulmane, n'a finalement pas fait les scores escomptés. Après des heures d'attente, des coupures de réseau, des silences en forme de points d'exclamation, les résultats ont été annoncés du bout des lèvres. Un raz-de-marée pour les candidats indépendants, 93 sièges contre 75 pour la dynastie Sharif et 54 pour les Bhutto. En fait, d'indépendants, tous ces députés sont très liés à Imran Khan, l'ancienne star de cricket, chef du gouvernement de 2018 à 2022, renversé par une motion de censure et qui n'a de cesse depuis d'accuser l'armée de l'avoir écarté. Deux semaines plus tard, et pourtant annoncé une alliance gouvernementale sans le parti d'Imran Khan, le PTI, le nouveau Premier ministre Shehbaz Sharif, frère de Nawaz, a prêté serment hier. Avec quelle légitimité va-t-il pouvoir gouverner? Que comptent faire les partisans d'Imran Khan de cette victoire confisquée? Et que représente aujourd'hui Imran Khan? Pourquoi incarne-t-il une promesse de changement alors qu'il a lui-même dans le passé gouverné avec l'assentiment de l'armée? Nous en parlons ce matin avec Laurent Gaillet. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur au Centre d'études et de recherche internationale, le CERI de Sciences Po à Paris. Laurent Gaillet, ça fait quoi, 20 ans à peu près que vous travaillez sur la fabrique violente du social au Pakistan et par ricochet sur la politique pakistanaise? Est-ce que vous avez souvenir de résultats d'élections aussi inopinés, inattendus que ceux des législatives du 8 février?
Alors pas de mémoire récente, hein. C'est-à-dire que là effectivement cette élection, ces résultats ont surpris. En même temps, on a connu dans le passé hein, des retournements, des développements spectaculaires. On pense en particulier aux élections de 2008, à la veille de laquelle donc il devait éventuellement porter ramener au pouvoir Benazir Bhutto et qui avait été finalement assassiné hein, dans des circonstances tragiques à Rawalpindi, à côté d'Islamabad, en décembre 2007. Donc ces élections de 2008 avaient été particulièrement impressionnantes à cet égard. En revanche, les scrutins des dernières années, hein, celui de 2018 notamment, étaient moins imprévisibles. Mmh.
Là, si on regarde par exemple la cartographie du vote, est-ce qu'il y a matière à être interloqué? Car les deux grandes familles qui succèdent au pouvoir l'une après l'autre ont des fiefs électoraux historiquement. Cette fois, est-ce qu'elles ont été bousculées jusque dans ces territoires qu'elles prenaient pour acquis?
Absolument. Notamment la Ligue musulmane du clan Sharif a été bousculée dans son fief régional historique, la région du Pendjab, au nord-est du pays, la plus peuplée, la plus prospère du pays, qui est vraiment le cœur à la fois de sa vie politique et économique. Et là, les opposants du parti d'Imran Khan, le PTI, se sont très bien implantés et sont venus déstabiliser le clan Sharif.
Et le Sindh aussi, où habituellement alors, c'est plutôt la famille Bhutto, je crois.
Alors là, le Sindh a mieux résisté. Le parti du peuple pakistanais, le Pakistan People's Party des Bhutto, il a remporté une écrasante majorité des sièges au niveau national et au niveau provincial, puisqu'il y avait à la fois donc une simultanéité du scrutin national et des scrutins régionaux. Et donc là, le PPP s'est consolidé dans son statut aussi de parti finalement régional et ethnique, peut-être plus que de parti national d'ailleurs.
Est-ce que je dis une bêtise d'ailleurs si ces provinces, si le Pendjab, le Sindh, ces États correspondent plus ou moins à des communautés ethnolinguistiques entre guillemets, qu'il est difficile en général de voir des résultats d'élections changer dans ces États-là? Alors,
absolument. Donc il y a une dimension ethno-linguistique à ce vote, notamment, on l'a bien vu là pour la cartographie des résultats aux élections nationales, à la fois la PMLN des Sharifs, le PPP des Bhutto font l'essentiel de leur score dans le Pendjab pour la PMLN, dans le Sindh pour le PPP, ce qui confirme leur ancrage dans des fiefs régionaux et leur statut d'abord, avant tout, de partis ethno-linguistiques, avant peut-être même d'être des partis nationaux. C'est un peu la différence avec le PTI, d'Imran Khan, qui sans pour autant remporter unanimement des sièges dans toutes les provinces. Il a du mal notamment à s'implanter dans la plus grande province, la plus vaste du Baloutchistan à la frontière de l'Iran et de l'Afghanistan. De même dans le Sindh. Le Sindh a résisté à la percée du PTI, mais en revanche, on a assisté à un véritable raz-de-marée dans la province à majorité Pashtun, frontière de l'Afghanistan, la province de Khyber Pakhtunkhwa, et également au Pendjab.
Alors, si les résultats officiels aujourd'hui donnent, même les résultats officiels donnent majoritaires au Parlement les candidats que l'on dit indépendants, qui sont en fait proches d'Imran Khan, proches du PTI, alors pourquoi les accusent-ils d'être trafiqués, ces résultats? Puisque de toute façon, dans les faits, dans les résultats, même s'ils n'ont pas aujourd'hui le pouvoir, c'est-à-dire ils ne sont pas au gouvernement, mais ils ont remporté la majorité des sièges à l'Assemblée.
Alors, ils n'ont pas remporté la majorité des sièges à l'Assemblée. Ils sont arrivés, ils seront le plus gros groupe. Et encore, c'est-à-dire que comme ils ont été privés de leur symbole électoral, comme ils ont été privés de l'affiliation au PTI, et comme vous le rappeliez, ils ont été élus comme indépendants.
En fait, ils ne pouvaient pas dessiner la batte de cricket qu'utilisait, mais c'est le symbole d'Imran Khan, ancienne star de cricket. Ils ne pouvaient pas dessiner sur les bulletins, c'est ça que vous dites? Ils ne pouvaient pas utiliser le symbole?
Voilà, exactement. C'est-à-dire que la commission électorale, la décision a été confirmée ensuite par la Cour suprême, ont privé le PTI de ce symbole, de la batte, en référence au passé sportif glorieux de son champion, ce qui était aussi voué à perturber les électeurs. Dans un pays où une partie de l'électorat était illettré, le fait de ne pas retrouver sur le bulletin de vote le symbole visuel de son candidat est une source de perturbation, c'était clairement l'objectif. Ça n'a pas marché, mais de fait, aujourd'hui, les candidats affiliés au PTI sont étiquetés comme indépendants, ce qui les empêche de constituer un groupe partisan au sein de l'Assemblée nationale, de récupérer par ailleurs un certain nombre de sièges attribués aux femmes et aux minorités qui permettent de faire basculer vers la majorité. Ce qui fait que le PTI n'a pas été en mesure de constituer une majorité parlementaire en dépit du fait qu'il est le premier groupe politique partisan à l'Assemblée.
Un haut fonctionnaire, le commissaire d'une ville du Pendjab, Rawalpindi, a démissionné là il y a quelques jours en disant que sous sa supervision, les résultats des élections ont été truqués. Il dit « Nous avons fait perdre des candidats indépendants qui avaient une avance de 70 000 à 80 000 voix en apposant de faux tampons ». Est-ce qu'il y a d'autres hauts fonctionnaires qui ont admis avoir joué le jeu des familles en place?
Alors pour l'instant, c'est le seul témoignage de ce niveau et le fait qu'un fonctionnaire d'aussi haut niveau prennent position, s'engagent sur la question. Hein, ça, c'est quand même relativement rare au Pakistan. La Cour suprême, la justice notamment, est rapidement intervenue pour essayer d'étouffer le scandale. Mais le mal a été fait. Ça témoigne aussi de la polarisation de l'appareil d'État. C'est-à-dire qu'au-delà des soutiens que Imran Khan et son parti, le PTI, conservent dans la population, l'appareil d'État lui-même, la bureaucratie, l'appareil judiciaire, mais aussi l'armée, sont divisés. Une partie d'entre eux restent des soutiens d'Imran Khan.
Alors comment expliquer que lui, Imran Khan, chef du PTI, le mouvement du Pakistan pour la justice, emprisonné depuis des semaines, condamné en janvier et en février dernier à de lourdes peines de prison, comment a-t-il réussi à rassembler autant de votes en sa faveur? D'où tient-il sa légitimité, Laurent Gayet? Est-ce que c'est la façon dont il a lui-même exercé le pouvoir entre 2018 et 2022 qui aurait laissé un souvenir impérissable sur l'homme politique qu'il est? Comment on explique aujourd'hui cet engouement pour Imran Khan?
Alors c'est certainement pas son bilan au pouvoir de 2018 à 2022. Donc vous le rappelez, il faut le rappeler, il avait été renversé par une motion de censure en 2022. Ce bilan était relativement maigre. Ce qui clairement a redoré le blason d'Imran Khan, c'est la répression qui s'en est ensuivie, à la fois policière, judiciaire, politique, on l'a vu, la tentative de l'armée de contrôler ce résultat. Clairement, les électeurs ont décidé de se révolter, de réaffirmer leur autonomie. Par ailleurs, Imran Khan, c'est un challenger, c'est un outsider qui ne se réalise jamais aussi bien que dans l'opposition. Et finalement, peut-être qu'il est en prison, mais il est là dans son élément, il reprend sa posture de leader contestataire.
Il faisait des discours depuis sa prison avec l'intelligence artificielle, c'est Courrier International qui racontait ça, ça veut dire quoi exactement?
Alors ça veut dire qu'il donnait en fait des notes manuscrites à ses avocats ou à ses proches, qui ensuite était transformé via la technologie d'une start-up américaine en adresse vidéo, ensuite diffusée sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une autre explication de sa victoire. C'est effectivement le fait que les partisans, les cadres du PTI, témoignant aussi d'un rajeunissement de la population, de son rapport à la technologie, ont un rapport extrêmement intense aux réseaux sociaux et ont contourné les restrictions, la répression, par une campagne électronique assez intense et créative.
Donc Imran Khan qui dispose dans la population pakistanaise de très très nombreux soutiens, comme on a pu le voir encore en janvier et février, quand il a été condamné successivement à 10 ans de prison pour diffusion de secrets d'État, à une autre peine de 14 ans pour corruption et à une de 7 ans pour mariage illégal.
L'équipe juridique d'Imran Khan a été évincée de la procédure. Elle a littéralement été jetée hors du tribunal et nous n'avons pas eu le droit de procéder à un contre-interrogatoire et de défendre notre client.
Ce verdict contre lui est une très mauvaise décision car la nation entière sait qu'il est une personne honnête.
Nous savons tous qui est honnête et qui sont les voleurs qui ont pillé ce pays. Imran Khan est notre dernier espoir. Le système essaye de l'éliminer.
Des témoignages recueillis par France 24 le 31 janvier dernier, Laurent Gayet, puisque notre série s'attache à raconter comment des démocraties ont été confisquées aux citoyens d'Asie, en l'occurrence du Sud. Est-ce qu'Imran Khan lui-même incarne une promesse de démocratie ou ce serait une vision occidentalo-centrée que de lire sa popularité n'a rien à voir avec ça? Ou il y a de ça, c'est-à-dire une promesse de pluralisme, d'alternance, de lutte contre la corruption et de démocratie?
Il incarne une promesse de changement, de nettoyage, au sens d'un grand balayage de la scène politique. Effectivement, vous avez raison de le rappeler. Un de ses principaux thèmes de campagne et de gouvernement, c'est la lutte contre la corruption.
Alors que lui-même a été condamné pour corruption.
Absolument, mais ça, aucun leader politique au Pakistan n'échappe à ces charges qui sont résolument politisées, qui sont un outil aussi dans les batailles, dans les rivalités politiques. La nouveauté avec Imran, c'est que il avait politisé cette arme, il en a fait vraiment un combat politique et le symbole de son projet pour le pays. En revanche, incarne-t-il une promesse de changement démocratique, de démocratisation? Certainement pas. C'est quelqu'un qui est extrêmement vindicatif. Ce projet de nettoyage, c'est aussi un projet de règlement de compte. Et on peut gager que ces mois, voire peut-être, on le verra, ces années en prison, vont pas améliorer son humeur à cet égard. Au contraire, on peut s'attendre à ce que lorsque Imran sortira de prison, parce qu'il sortira bien de prison un jour ou l'autre...
Quand l'armée aura besoin de lui, peut-être.
Voilà.
Comme Nawaz Sharif.
Exactement. Mmh. Il y aura forcément un deal à un moment. Et ce jour-là, on peut s'attendre à ce qu'il reprenne le pouvoir et qu'il s'en empare pour régler des comptes avec ses adversaires.
D'ailleurs, si on devait placer le parti d'Imran Khan sur l'échelle horizontale des partis politiques, échelle très française, on le placerait où à peu près ?
On le placerait très à droite.
D'accord.
On le placerait très à droite. Il est parfois décrit comme un emblème de leader populiste. Moi, je suis pas forcément très convaincu par ce concept. Ce qui lui convient le mieux, c'est certainement le qualificatif d'islamo-nationaliste. Il campe sur des positions donc nationalistes de défense de la souveraineté pakistanaise, notamment face à l'Inde, face aux États-Unis, avec un discours assez anti-impérialiste virulent. Et par ailleurs, il incarne aussi une droite réactionnaire, religieuse, droite qui a été d'ailleurs laminée dans ces élections. Et le fait que les partis islamistes n'aient remporté aucun siège à l'Assemblée nationale est aussi le signe que le PTI a réussi à gagner des voix sur ce terrain.
Alors après l'annonce des élections, Laurent Gayet, c'est l'armée qui a signé la fin de la partie. Le général Mounir, donc le chef d'état-major des armées, qui a dit que de toute façon, quel que soit le choix des électeurs, le Pakistan a besoin de stabilité. Est-ce que ça faisait longtemps que l'armée n'avait pas aussi ouvertement assumé son interventionnisme sur la scène politique pakistanaise? Depuis l'alternance en 2013, je crois, d'un premier gouvernement civil vers un autre, elle essayait au moins dans les mots de ne pas trop montrer à quel point elle était interventionniste.
Oui, c'est ce qu'on qualifie au Pakistan de régime hybride, où l'armée continue à influer sur le jeu politique, notamment à défendre son précaré, c'est-à-dire en particulier la politique de défense, la politique diplomatique, notamment les relations avec l'Inde, l'Afghanistan et les États-Unis. Ce qui est assez nouveau, en tout cas dans la période récente, c'est quand même un pays qui a été gouverné directement par les militaires pendant presque la moitié de son histoire. Mais ce qui est nouveau par rapport à la séquence historique que vous évoquiez depuis 2013, c'est qu'effectivement, depuis 2019-2020, on assiste à un réengagement de l'armée, non plus seulement dans le contrôle de l'État de manière un peu abstraite, mais vraiment une participation à la gouvernance, à la fois politique, mais aussi et surtout économique.
Situation économique, bien sûr, aujourd'hui catastrophique au Pakistan, et ça sera l'un des défis qu'il faudra relever pour le gouvernement en place, on va en parler. Alors, arrivé deuxième, malgré des moyens colossaux en comparaison de ceux du parti d'Imran Khan, Nawaz Sharif, qui était pressenti pour devenir Premier ministre, il venait de rentrer de 4 années d'exil à Londres, a finalement laissé la place à son frère, Shehbaz, qui a déjà été chef du gouvernement entre avril 2022 et août 2023. Nawaz Sharif a renoncé, ou on lui a demandé de renoncer, le « on » au Pakistan étant souvent l'armée.
Oui, ce qu'on désigne parfois par l'État profond ou l'establishment, ces acteurs œuvrant en coulisses. Là, de moins en moins en coulisses, d'ailleurs, on l'a bien vu, vous le rappeliez. L'armée peut se satisfaire de ce recul. C'est-à-dire que même si l'armée avait donné son accord ou même avait orchestré en coulisses le retour de Nawaz Sharif en octobre 2023 depuis son exil londonien, Nawaz Sharif continuait, restait quand même un acteur suscitant la suspicion, la crainte, voire l'aversion d'une partie de l'armée. C'est quelqu'un, bien qu'il ait émergé politiquement dans le giron de l'armée pendant la fin de la dictature du général Ziaul Haq à la fin des années 80, c'est quelqu'un qui régulièrement a essayé de réaffirmer son autorité face à l'institution militaire. C'est quelqu'un aussi dont l'armée sait qu'il avait des projets de normalisation avec l'Inde, peut-être de mise au pas des activités économiques et financières de l'armée. Donc c'est quelqu'un qui restait imprévisible pour l'institution militaire. Son frère cadet, Shehbaz Sharif, lui est perçu comme beaucoup plus facilement manipulable.
Mais quand vous dites qu'il était plus imprévisible ou que parfois il montrait une certaine défiance vis-à-vis de l'armée, quand on est au Pakistan, quand on dit ce genre de choses, on le pense vraiment ou on fait semblant, entre guillemets? C'est-à-dire c'est un jeu où réellement Nawaz Sharif avait l'intention d'écarter un petit peu l'armée, de la tenir à distance du pouvoir?
Oui, alors concrètement au Pakistan, ça passe par plusieurs choses. C'est souvent au moment fatidique du renouvellement du mandat à la fois du directeur général des services de renseignement interarmes, l'Inter Services Intelligence, l'ISI, mais aussi au moment du renouvellement ou de la nomination d'un nouveau chef d'état-major de l'armée de terre, de facto le chef de l'institution militaire dans son ensemble. Et là, à chaque fois, les dirigeants, notamment Nawaz Sharif, mais aussi Benazir Bhutto, mais aussi Imran Khan, c'est ça qui a précipité sa chute, engagent souvent un bras de fer avec l'institution militaire.
Nawaz Sharif notamment avait laissé entendre qu'il remettrait en cause la participation des dirigeants de l'armée au Special Investment Facilitation Council, donc une instance créée en 2023 pour attirer des investissements étrangers. Il l'avait sous-entendu d'ailleurs, ou il l'avait dit, et pourquoi ça... Est-ce que d'après vous, Laurent Gayet, c'est ça qui a pu précipiter une défiance entre l'armée et lui?
Alors ça a certainement ajouté, je ne crois pas qu'il ait eu de position publique à cet égard, mais en tout cas il l'a laissé entendre, et ça a certainement ajouté à la nervosité de l'armée. En revanche, son frère Shehbaz Sharif, lui est plus favorable à cette institution, institution qui a vu le jour sous son mandat, institution qui a essentiellement vocation rassembler des investissements étrangers, en particulier venant des pays du Golfe, et à faciliter la mise en application de ces investissements en contournant les blocages bureaucratiques. Et là, l'armée, en fait, donc le chef d'état-major de l'armée, le général Hassim Mounir, siège à la tête de cette instance avec le Premier ministre, mais avec un pouvoir quasi discrétionnaire sur ces investissements et leur mise en application. Donc là, il s'agit vraiment de la sanctuarisation du rôle direct de l'armée dans la conduite du développement économique et financier du pays.
Donc, à Nawaz Sharif, l'armée pakistanaise préférait son frère, qui est donc depuis hier officiellement le premier ministre du gouvernement. C'est pas tellement un cadeau non plus que ce poste de premier ministre du Pakistan dans le contexte actuel. Une crise économique qui dure. Cela fait un an que l'inflation atteint les 30%.
Le prix de l'eau courante est très cher. Il augmente chaque mois. Il n'y a aucun politicien qui s'en soucie.
Nous n'avons pas de gaz depuis 3 mois et beaucoup de coupures d'électricité.
Les seuls qui méritent notre vote sont ceux qui développeront notre quartier et régleront nos problèmes.
Le principal problème est l'inflation. C'est la priorité du prochain gouvernement. À cause de l'inflation, les pauvres souffrent. Un travailleur gagne 1000 roupies, soit 3 euros par jour, alors que ses dépenses sont 2 fois plus élevées. Ils ne peuvent même pas se nourrir. C'est la raison principale de la hausse de la criminalité.
Extrait d'un reportage de Sonia Ghezali pour France Culture en ce mois de février 2024. Laurent Gayet, on est au Pakistan dans un contexte de négociations ou de renégociations. Elles sont infinies, ces négociations avec le Fonds monétaire international pour un nouveau plan d'aide. L'armée, encore elle, jusqu'où est-ce qu'elle peut accepter des mesures d'austérité demandées en contrepartie d'un prêt par le FMI? Ces mesures qui sont par définition impopulaires et qui vont avoir un effet direct sur le quotidien des Pakistanais.
L'armée y est favorable. Historiquement, c'est l'armée qui a poussé justement le pays vers cet état de dépendance extérieure, état de dépendance qui est une alternative aussi à une fiscalisation agressive. Le Pakistan est un des pays du monde qui a un des plus faibles taux d'imposition, notamment sur le revenu. C'est un choix qui a été fait très tôt par les premiers dirigeants militaires qui se sont tournés plutôt vers l'aide extérieure, à l'époque essentiellement américaine.
Donc la mise aujourd'hui ou pas ?
Encore aujourd'hui, donc la mise en dépendance. Alors de moins en moins, ce qui est frappant, c'est qu'on assiste à une autonomisation vis-à-vis, en termes d'investissement étranger, ce dont je parlais. Désormais, le pays et l'armée en particulier se tournent plutôt vers les pays du Golfe, vers la Chine. Mais le FMI, le soutien du FMI reste absolument central, et le soutien du FMI implique aussi d'avoir le soutien des Américains pour faciliter l'octroi de ces prêts et les négociations auxquelles on avait assisté l'an dernier.
Vous avez d'ailleurs sous-entendu dans un article récent, Laurent Gayet, que des discussions étaient en cours entre les États-Unis et le Pakistan, à moins qu'elles aient déjà eu lieu, au sujet de la guerre en Ukraine. Les États-Unis, est-ce qu'aujourd'hui ils conditionnent une certaine aide à un soutien du Pakistan dans sa politique en Ukraine ?
Alors là, on est vraiment dans la spéculation.
Oui, c'est une parenthèse en plus que je vous fais faire.
C'est le site The Intercept qui avait révélé le fait que le Pakistan aurait, je parle vraiment au conditionnel, fourni des munitions à l'Ukraine en échange du soutien des États-Unis à l'octroi justement de ce nouveau prêt du FMI. Évidemment, ces nouvelles n'ont pas été confirmées. Elles ont même été démenties à Islamabad, qui campe sur une stricte position de neutralité dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Donc il ne faut pas s'attendre à une clarification à cet égard.
Alors si l'on s'en tient à ce qui est sûr, c'est que c'est le parti du Premier ministre Shehbaz Sharif qui va devoir assumer aujourd'hui la politique pakistanaise, les mesures d'austérité en contrepartie de ces nouveaux prêts du FMI. Est-ce que la Ligue musulmane de la famille Bhutto a l'intention de le soutenir sur cette partie-là du prochain mandat? Parce que c'est là qu'on fait entrer la famille Bhutto en jeu. elle aura un rôle aussi dans ce gouvernement. Est-ce que ça, c'est nouveau que les familles Sharif et Buteau, qui depuis des années se succèdent alternativement au pouvoir, là, vont devoir trouver des compromis un peu sur chaque loi qui va passer, parce qu'elles sont toutes les deux représentées au gouvernement?
Alors, c'est pas une nouveauté, hein. C'est-à-dire que précisément, le gouvernement sortant était un gouvernement de coalition, donc celui qui s'est imposé, qui arrivait au pouvoir après la destitution d'Imran Khan en avril 2022, était une coalition entre ces deux grandes dynastie politique des Buteau et des Sharif et de leurs partis respectifs, la Ligue musulmane et le Parti du peuple pakistanais. Donc ces partis, ces dynasties, ces partis très mainstream sont compatibles. Il y a des rivalités de personnes, il y a des rivalités d'agenda, mais ils sont très clairement compatibles et compatibles avec l'establishment militaire.
Donc la Ligue, la famille Buteau, pardon, je me mélange les pinceaux sur les partis, mais eux, ils visent certains postes en particulier ou ils les ont obtenus? Parce que c'est toujours une bataille aussi, la distribution de portefeuilles au départ. Là, le Premier ministre a prêté serment hier. Donc qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui sur ce partage à venir du pouvoir?
Oui, alors le pipipi des Buteau joue assez finement. Il comprend que la situation post-électorale n'est guère favorable, que ce gouvernement décrit comme le PTI, comme la coalition des perdants, va être impopulaire. Il va devoir négocier justement ce nouvel accord avec le FMI qui va forcément être assorti de conditionnalités impopulaires. Et donc, il souhaite garder ses distances, soutenir de l'extérieur, mais sans participer, sans se mouiller et sans se faire éclabousser forcément par les vagues qui arrivent. Ça se manifeste notamment par le fait qu'il brigue en particulier le poste de président de la République, de président de l'Assemblée. Il souhaitait également la présidence du Sénat, mais là, la pile MLN a bloqué. Et donc, on va voir s'ils obtiennent déjà ces postes. Hein, l'élection présidentielle doit se tenir le 9 mars. Par ailleurs, on peut anticiper déjà des tensions dans cette coalition.
Alors que pour l'instant, le président au Pakistan est un proche d'Imran Khan. Il fait partie de son parti, le PTI. Alors aujourd'hui, pour les soutiens d'Imran Khan, quels recours sont possibles? Est-ce que des recours juridiques ont d'ores et déjà été entamés? Puisque vous me disiez tout à l'heure, Laurent Gaillet, qu'aujourd'hui, ce qui fait lieu de Cour suprême est très politisé aussi.
Oui, donc le PTI va d'abord engager des recours juridiques auprès de tribunaux électoraux pour contester un certain nombre d'irrégularités. C'est contentieux pour ensuite être transféré vers les hautes cours régionales de chaque province, puis éventuellement à la Cour suprême. Donc il faut s'attendre à une bataille longue, ardue. Le PTI, comme tous les partis, mais peut-être un peu plus que d'autres, compte un grand nombre d'avocats aussi dans ses rangs, hein, qui est représentatif aussi du fait que c'est un parti qui a largement mobilisé dans les professions libérales. Donc il peut compter sur cette expertise juridique pour mener ce combat devant les tribunaux, parallèlement peut-être à une mobilisation dans la rue.
Et en attendant, qui est le Chief Justice, le président de la Cour suprême, qui s'appelle Qazi Faiz Issa? C'est le plus haut fonctionnaire du système judiciaire. Quel rôle joue-t-il dans cette séquence politique? Et jusqu'à quand, puisque son mandat, par définition, va prendre fin un jour? Donc, est-ce que de ça dépend l'avenir aussi politique d'Imran Khan et de tous ceux qui, aujourd'hui, derrière lui, tous les députés qui se présentent comme indépendants, vont devenir aujourd'hui?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ce régime hybride, hein, dont on esquissait un peu les contours, fait intervenir à la fois le pouvoir militaire, le pouvoir civil, le pouvoir judiciaire. Et comme je le disais, chacune de ces composantes est profondément divisée, chaque institution est polarisée, hein, ça a été aussi la grande force ou le pouvoir de nuisance d'Imran Khan que de diviser aussi profondément l'État et son appareil. Et la Cour suprême n'échappe pas à cette polarisation. Donc l'actuel Chief Justice, en poste jusqu'en octobre 2024, lui est plutôt connu comme un opposant assez ferme au PTI et à Imran Khan. Il a un pouvoir extrêmement extrêmement important. Il peut décider au-delà de son pouvoir de décisionnel. Il peut se saisir d'un certain nombre de cas. Il a une capacité d'autosaisine de la Cour suprême. Et son remplacement en octobre 2024, le juge suivant ne doit prendre sa retraite que 3 ans plus tard. Donc on aura là un nouveau magistrat à la tête de la Cour suprême qui aura un mandat extrêmement long. Là, on entrera peut-être dans une plus grande phase d'incertitude.
Est-ce que le PTI, le parti d'Imran Khan, tient aujourd'hui un discours selon lequel les institutions pakistanaises sont illégitimes parce que trop proches de l'armée, ou cette critique-là, la proximité du pouvoir politique avec l'armée, n'existe pas au Pakistan?
Alors là, il faut une réponse nuancée, c'est-à-dire que... on a assisté, notamment suite à l'arrestation, suite au renversement d'Imran Khan, puis suite à sa première tentative d'arrestation en mai 2023, à une expression ouverte d'un certain antimilitarisme dans les rangs du PTI, à la fois chez ses cadres et chez ses supporters. Néanmoins, l'opposition d'Imran Khan et de la direction du parti n'est pas avec l'armée en tant que telle. C'est vraiment d'abord un clash de personnalité, d'ego, entre Imran Khan et l'actuel chef d'état-major de l'armée, le général Mounir, qui l'avait démis de ses fonctions à la tête des puissants services de renseignement de l'ISI, qui lui en tient rigueur. Donc c'est au-delà de ça une volonté de la part d'Imran Khan de contrôler l'intégralité de l'appareil d'État. Donc c'est pas une rivalité, en tout cas à l'origine, contre l'institution militaire. Néanmoins, à force d'ingérence de l'institution militaire dans le jeu politique, on sent monter une opposition à travers l'ensemble, une grande partie de la société pakistanaise, et ça c'est quelque chose de nouveau.
Alors quand on parle des aspirations démocratiques de la société pakistanaise, on parle de quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ce serait l'aspiration des Pakistanais à un système politique plus ouvert, plus libre? Est-ce que c'est réellement ce que vous avez entendu? Il se trouve, Laurent Gaye, que vous étiez l'année dernière très régulièrement au Pakistan, que vous avez suivi par intérêt pour vos recherches, ces manifestations en soutien à Imran Khan. Est-ce que vous l'entendiez, ce terme de démocratie? Ou encore une fois, est-ce que c'est une interprétation que nous, on en fait ici?
Non, on n'entend pas souvent le terme démocratie lui-même. Ce qu'on entend en ourdou, par exemple, c'est le respect du vote. Une formule qui revenait régulièrement, hein, vote ko izat do, c'est-à-dire respecter notre vote, respecter la décision populaire, respecter la volonté de changement, cette volonté de nettoyage, hein, pas forcément démocratique, hein, je le rappelais, qu'incarne le PTI et son leader.
Tous les jeunes ont peur pour leur avenir. Tant qu'il n'y aura pas de candidats parmi nous, nos voix ne seront pas entendues. Il est devenu trop difficile pour les jeunes de vivre ici. Je viens de terminer mon baccalauréat. Pour un avenir meilleur, je vais devoir quitter le Pakistan.
Nous avons donné leur chance à tous les grands partis traditionnels. Certains ont même gouverné plusieurs fois. Pour quel résultat? Alors, pour qui doit-on voter cette fois?
Le vote est un devoir, et si les personnes instruites comme vous ne votent pas, eh bien, il n'y a aucun espoir. Alors.
Ok, mais on voit bien qu'il n'y a finalement qu'un seul parti qui a toutes ses chances de gagner.
Je ne vois personne qui mérite mon vote pour l'instant. Les politiciens ont tous été décevants. Donc ils ne méritent pas d'avoir une autre chance.
Des témoignages de nouveau recueillis par Sonia Ghezali pour France Culture. Laurent Gaillet, cette jeunesse, est-ce que ça a un sens aussi de parler du vote de la jeunesse au Pakistan? La population pakistanaise est très jeune. Est-ce qu'aujourd'hui, on commence à constater des changements dans la façon dont les jeunes votent par rapport à leurs parents?
Alors certainement, hein, c'est une société très jeune, vous avez raison de le rappeler, hein, 60% de la population a moins de 30 ans. Une partie de cette jeunesse, très clairement, s'était enregistrée sur les listes électorales. On a assisté à une augmentation sensible de la population votant dans l'élection, hein. Sinon en termes de taux de participation, en termes d'inscription sur les listes électorales. cette population, cette jeunesse, est... visiblement, hein, même si on manque de chiffres pour l'instant à cet égard, hein, très largement séduite par, sinon par le projet, par le caractère d'outsider d'Imran Khan, par son engagement que j'évoquais avec les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, son côté, hein, cet équilibre très pakistanais entre conservatisme et modernisme technologique.
Alors avant d'accueillir dans ce studio Paul Rollier pour la dernière partie de Culture Monde, peut-être encore un mot, Laurent Gaillet, sur la question sécuritaire au Pakistan. La crise politique va très certainement encore aggraver encore ce conflit. contexte sécuritaire déjà très éprouvé. Il y a eu, ne serait-ce que la veille et le jour des élections, deux attentats revendiqués par l'État islamique dans la province du Baloutchistan, donc dans le sud-ouest, qui ont fait plus de 30 morts. Est-ce qu'on peut faire un lien aujourd'hui direct entre ces situations politiques très incertaines? Aucun premier ministre au Pakistan, je crois, n'est jamais allé au bout de son mandat. Et cette crise sécuritaire, dont je ne sais pas si on peut dire qu'elle s'aggrave, mais qui est en tout cas toujours présente et qui n'a pas été réglée.
Oui, la crise sécuritaire s'aggrave. S'aggrave notamment depuis la rupture du cessez-le-feu du mouvement des talibans pakistanais en fin 2022. Elle s'aggrave en lien aussi à la conquête du pouvoir par les talibans afghans, par la prise de Kaboul. Et depuis cette prise de pouvoir, on assiste à une multiplication des attaques côté pakistanais. En même temps, la situation est quand même moins grave que ce qu'on avait pu connaître dans les années, disons, de 2007 à 2015. Les talibans pakistanais, les organisations affiliées à l'État islamique, pour l'instant, cantonnent leurs attaques aux provinces de l'Ouest, frontalières de l'Afghanistan et de l'Iran, sans mener une campagne tous azimuts, notamment dans les grandes villes du pays, au Pendjab ou à Karachi, comme on avait assisté ces dernières années. Donc il y a malheureusement une perspective de détérioration, et il faut espérer que les groupes armés ne profitent pas de l'instabilité politique pour relancer cette campagne militaire.
Et la stratégie de l'armée pakistanaise, laquelle est-elle, alors qu'elle est aujourd'hui tout entière concentrée sur la passation de pouvoir, sur les élections qui viennent de se dérouler, sur Imran Khan emprisonné? En attendant, quelle est sa stratégie sécuritaire pour le Pakistan?
La stratégie de l'armée pakistanaise, elle est assez stable. C'est plutôt une stratégie d'apaisement et de cooptation. L'armée n'intervient militairement qu'en dernier recours contre des acteurs islamistes qui restent en partie perçus comme des atouts stratégiques pour défendre les positions stratégiques pakistanaises en Afghanistan ou vis-à-vis de l'Inde.
Et malgré tout, les Pakistanais, la société pakistanaise reste attachée à cette armée pour ce rôle-là. Le rôle, elle est censée garantir quand même leur sécurité. C'est un discours qu'on entend quand il s'agit de défendre cette prépondérance de l'armée dans la société pakistanaise.
Absolument, c'est comme ça que certains universitaires pakistanais la présentent, comme une organisation en charge d'un racket, entretenant l'insécurité tout en proposant une offre de protection.
ਗਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਜਾਵੇ ਪਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਦੀ ਚੂਰੀ ਨੂੰ ਰਾਵਾਂ ਚ ਬਾਵਾਂ ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾਵਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੇ ਮੇਰੇ ਡੋਲ ਜਦਾਈਆਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਖਬਰ
Passori, un titre des chanteurs pakistanais Ali Sethi et Shah Egil qui date de 2022. Le titre veut dire « difficile pagaille ». Alors, c'est une histoire d'amour dans cette chanson, mais on en déduit ce qu'on en veut pour le sujet de notre jour. Vous écoutez Culture Monde, le deuxième épisode de notre série sur les aspirations des sociétés d'Asie du Sud-Est et d'Asie du Sud à des systèmes plus ouverts et pluralistes aujourd'hui au Pakistan, que va gouverner de nouveau un membre de la famille Sharif avec la famille Bhutto. Elle se partage le pouvoir depuis la création de l'État pakistanais en 1947. Les minorités religieuses aussi aspirent au Pakistan à davantage d'ouverture et de tolérance.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Nous nous sommes enfuis avec nos familles. Si nous étions restés, nous aurions été brûlés comme ils ont brûlé nos maisons. Ils nous ont accusés de blasphème. Mais pourquoi ferions-nous cela? Qu'est-ce que cela nous apporterait? Ils ont juste trouvé une excuse pour nous attaquer.
La communauté chrétienne a été tellement opprimée qu'elle est terrifiée. Ils ont l'impression de ne pas appartenir à ce pays et de ne pas pouvoir pratiquer librement leur religion. Aujourd'hui, la communauté chrétienne demande une zone séparée où elle pourrait vivre entre elles.
En août dernier, dans un quartier chrétien de Faisalabad, à l'est du Pakistan, dans le Pendjab, des centaines de personnes de confession musulmane étaient venues incendier et détruire maisons, églises, cimetières. Une réaction de colère après que furent retrouvées collées sur les murs d'une mosquée des pages déchirées du Coran, accompagnées de mots d'offense. Deux frères chrétiens avaient été arrêtés par la police, désignés comme les blasphémateurs par la foule. Ils ont été relaxés vendredi, faute de preuves. Bonjour Paul Rollier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes anthropologue, spécialiste du Pakistan, chargé de recherche au CNRS, affilié au laboratoire CESOR, qui est le centre d'études en sciences sociales du religieux. Est-ce qu'il est courant que ces accusations de blasphème se concluent, comme vendredi, par un non-lieu et par la libération des prévenus?
Malheureusement, oui. C'est assez courant.
Pourquoi malheureusement?
Malheureusement parce qu'il y a peu de justice dans ces affaires-là, même si la Cour suprême s'est prononcée là récemment pour accuser la police d'inaction et de lâcheté. Malheureusement, les personnes qui commettent ces actes-là finissent généralement par être libérées.
Donc vous voulez dire qu'on ne sait pas si ces deux frères chrétiens sont à l'origine de ces pages déchirées de Coran dans une mosquée, mais en tout cas, en général, il n'y a pas tellement d'enquête, c'est ça que vous voulez dire?
Voilà, donc la plupart de ces accusations, de toute manière, sont fabriquées de toutes pièces. En l'occurrence, ça doit être le cas aussi dans cette affaire-là, et malheureusement, les personnes qui attisent les braises et qui portent ces allégations généralement ne sont pas trop préoccupés.
Voilà, donc en fait, il y a de justice pour personne, ni pour ceux qui ont commis les actes d'offense, qui auraient pu être peut-être punis selon si c'était un délit. Bon, or, c'est un peu plus grave que ça, on va y revenir, ni ceux qui les ont accusés à tort.
Voilà, tout à fait.
Donc les deux frères chrétiens encouraient la peine de mort, c'est ce que prévoit la loi sur le blasphème au Pakistan depuis 1986. Est-ce qu'elle a déjà été appliquée?
Non, donc il n'y a pas. La peine de mort a été prononcée de nombreuses fois, mais il n'y a eu aucune exécution officielle depuis l'entrée en vigueur de ces lois anti-blasphème. Par contre, près d'une centaine de personnes ont été lynchées, soit pendant ou après leur procès.
C'est-à-dire, vous avez répertorié, vous avez travaillé là-dessus précisément, Paul Rollier, quand il y a des procès pour blasphème, quelle que soit la décision de justice derrière, il y a une forme de justice populaire.
Alors voilà, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'en première instance, dans les tribunaux criminels, ce qu'on appelle les session courts, il y a une condamnation à mort. Les juges sont souvent sous pression de toute manière pour prononcer un tel verdict. Et ensuite, bien souvent, lors des appels, donc dans les hautes cours ou la Cour suprême, il y a des acquittements prononcés en raison de manque de preuves ou d'irrégularités techniques. Mais ce processus-là peut prendre des années. Et généralement, c'est un coût très important pour la famille, pour toute la communauté. Et ça se conclut soit par un lynchage du suspect ou alors l'asile à l'étranger pour les personnes qui ont été accusées.
Confer Asia Bibi, condamnée à mort en 2010, accusée de blasphème par des villageoises musulmanes parce qu'elle avait bu l'eau d'un puits dans leur gobelet. Elle a été libérée 9 ans plus tard. Est-ce que les juges au Pakistan, Paul Rollier, ont une formation islamique? Le fait que le pays soit une république islamique depuis 1956, qu'il se soit séparé de l'Inde 9 ans plus tôt justement pour des raisons religieuses, est-ce que ça veut nécessairement dire que les juges ont une formation islamique?
Alors, pas forcément, puisqu'il est important de rappeler qu'il s'agit là de cours laïques, si on veut, dans le sens où ce ne sont pas des cours islamiques à proprement parler. Par contre, le droit pakistanais est hybride, dans la mesure où il s'agit de la common law héritée des Britanniques, mais dans laquelle on a infusé des dispositions tirées de la charia dans les années 80. Donc les juges se réfèrent aussi bien à la constitution et au droit positif qu'au droit islamique qui figure dans le code pénal.
Dans ces affaires jugées la plupart du temps, ces affaires de blasphème devant des tribunaux civils, est-ce que souvent les accusés et leurs accusateurs se connaissent? Est-ce qu'ils sont souvent voisins, collègues?
Voilà, vous avez tout à fait raison. C'est souvent, on s'aperçoit que finalement, ces allégations sont souvent portées entre des gens qui se connaissent pour des règlements de compte autour d'une question foncière ou une rivalité économique, par exemple. Donc ça, c'est dans la majorité des cas, finalement, les accusateurs et les accusés se connaissent.
Donc est-ce que ça veut dire exactement qu'on règle un peu les comptes familiaux en s'accusant de blasphème ?
Voilà.
En général, ça fait mouche ?
C'est ça, exactement. On a vu un petit peu les conséquences que ça peut avoir avec ce phénomène vigilantiste qui entoure cette question-là. Du coup, c'est une utilisation du droit comme une arme, ce qu'on appelle en anglais du lawfare, hein, le droit confère un certain pouvoir qui permet d'en abuser et de tirer parti.
Depuis quand ce phénomène vigilantiste, comme vous dites, Paul Relier, c'est-à-dire des associations, je dis associations, peut-être qu'elles ne sont pas toujours constituées comme telles, mais des groupes qui se surveillent entre eux pour surtout prévenir la moindre apparition, du moindre risque de blasphème.
Alors depuis, on va dire, 2011 à peu près, ça marque un tournant. Je dirais que c'est le troisième temps, si on fait la généalogie un peu de la judiciarisation des affaires de blasphème. Donc c'est à peu près les années 2010, c'est à partir de ce moment-là où on voit un réel emballement autour de cette question-là.
Donc c'est l'affaire Asia Bibi en fait qui emballe le débat.
Tout à fait. Ces lois ont été introduites donc à l'époque britannique tout d'abord dans les années 30 où on avait une disposition qui permettait la protection des sentiments religieux, hein, ce qui est une innovation. Et ensuite dans les années 80, islamisation du droit pakistanais. Donc c'est là où on commence à avoir une hausse des accusations et les années 2010 où il y a un réel emballement avec la formation de groupes politico-religieux axés exclusivement sur cette question-là, sur le renforcement et l'expansion du droit anti-blasphème.
Est-ce que les accusés sont systématiquement chrétiens ou il arrive que d'autres minorités religieuses soient accusées de blasphème, voire des musulmans soient accusés de blasphème ?
Alors voilà, on oublie souvent que la majorité, ou près de 50% des accusés de blasphème, se trouvent être des musulmans, la plupart du temps des chiites. Par contre, les minorités, donc qui représentent seulement quelques pourcents de la population pakistanaise, sont surreprésentées parmi ces victimes-là. Les Ahmadis, par exemple, qui comptent moins de 2% de la qui constituent moins de 2% de la population, constituent à peu près 30% des accusés pour blasphème. La même chose pour les chrétiens.
Les chrétiens, 3 millions à peu près de personnes au Pakistan, un peu plus de 1,5% de la population, mais ce sont surtout d'anciens intouchables convertis au christianisme, et c'est là que votre métier d'anthropologue et d'ethnologue va nous aider à comprendre. Qu'est-ce que ça change, le fait que ces chrétiens soient d'anciens intouchables? Est-ce que la question sociale se mêle aux faits religieux dans ces histoires de blasphème?
Voilà, donc comme vous le rappelez, la vaste majorité des chrétiens sont d'anciens intouchables, donc hindous, on pourrait dire, qui se sont convertis au début du XXe siècle dans l'espoir d'une ascension sociale et de se départir de l'infamie de l'intouchabilité. Malheureusement, la conversion n'a pas permis ça. Et la plupart des chrétiens sont toujours, peu ou prou, traités comme des intouchables. On les retrouve notamment dans les positions les plus subalternes, le éboueur. Donc ce qu'on voit autour de cette question du blasphème, il y a deux choses en jeu. Il y a l'altérité religieuse, le chrétien finalement fait un peu la figure de représentant de l'Occident, mais aussi il y a cette histoire de pureté ou d'impureté. Donc on a une sorte de... un croisement entre le registre religieux et le registre de la caste. Donc c'est pas une affaire purement religieuse. Et dans le cas d'Asia Bibi, on est vraiment là-dedans puisqu'il s'agit au tout début d'une histoire de tasses d'eau échangées entre une chrétienne et des musulmanes. Et ça, c'est un marqueur de cette question de l'intouchabilité qu'on imagine souvent comme une institution hindoue, à tort, puisque les hindous, il y en a pas beaucoup au Pakistan. Donc voilà, la culture pakistanaise est aussi... La caste existe finalement dans une culture à majorité musulmane.
Depuis cette affaire Asia Bibi en 2009, est-ce que la loi sur le blasphème a été amendée, réformée? Est-ce qu'elle est d'ailleurs amendable ou réformable?
Alors, il y a eu des amendements, il y a eu des extensions finalement. Donc là, il y a un projet de loi, par exemple, qui vise à interdire certaines insultes faites aux compagnons du prophète. Ça vise les chiites en particulier. Il y a eu des tentatives d'amender la loi dans l'autre sens, c'est-à-dire de limiter les abus. Malheureusement, pour le moment, ce n'est pas arrivé, même s'il y a beaucoup d'acteurs qui essayent de faire changer les choses. Et la Cour suprême, notamment, le Conseil de l'idéologie islamique aussi, prennent des mesures qui vont dans ce sens-là. Mais le coût politique serait bien trop important pour tous les hommes politiques. Voilà, c'est trop dangereux, d'une part, pour l'individu qui porterait cette revendication-là, et c'est un coût important au niveau électoral aussi.
Dangereux, c'est important de le rappeler, puisque après l'affaire Assia Bibi, deux hommes politiques sont morts pour avoir défendu cette chrétienne. En janvier 2011, le gouverneur du Pendjab est assassiné par son propre garde du corps, qui depuis a été érigé en héros. En mars 2011, le ministre des minorités religieuses, Shabazz Bhatti, seul chrétien au gouvernement, a été tué par balle. Est-ce qu'on peut dire pour autant, et pour conclure, Paul Rollier, que la pratique de l'islam aujourd'hui au Pakistan est plus rigoriste, que les partis islamistes ont pris le dessus? Alors je ne fais pas de lien entre ces hommes qui ont été tués et les partis islamistes, mais évidemment on est obligé de le replacer dans un certain contexte. Est-ce qu'il est juste de l'appréhender comme ça? L'islam au Pakistan serait plus rigoriste qu'avant?
Je dirais qu'il y a une nouvelle forme d'islamisation par le bas. Et ça, c'est un phénomène nouveau. Dans les années 70-80, c'était par le haut, l'État, les juges qui islamisaient le droit et la société. Là, il y a un phénomène, il y a une démocratisation aussi de l'autorité religieuse, finalement. De plus en plus, tout le monde peut parler au nom de l'islam et s'indigner au nom de l'islam. Et ça, c'est vraiment un phénomène nouveau.
Et par le haut, Laurent Gaillet, alors je vous fais rejoindre cette conversation, vous qui étiez avec nous pendant toute la première partie. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'islamisation par le haut du Pakistan? Est-ce que les partis qui ont été fondés, même après l'affaire Assia Bibi, comme le TLP, les partis qui sont venus vraiment défendre ceux qui accusaient Assia Bibi de blasphème, quels résultats font-ils aujourd'hui? Les partis islamistes en général, vous nous disiez tout à l'heure qu'ils n'ont obtenu aucun poste au Parlement. Qu'est-ce qu'on peut en conclure?
On peut en conclure exactement dans le sens de ce que suggère Paul Rollier, que l'islamisation par le bas progresse, que la société pakistanaise s'islamise, que l'autorité religieuse se diffuse, se démocratise d'une certaine manière. En revanche, l'islam politique ne porte pas, il n'a jamais réellement porté, c'est pas une force politique de changement, et il est coopté, mais d'une certaine manière domestiqué par les partis dominants.
Mais néanmoins, il faut se réclamer ou pas de l'islam publiquement pour embrasser une carrière politique au Pakistan, c'est toujours le cas?
Absolument, et de fait, comme le rappelait Paul Rollier, aucun dirigeant politique de premier plan ne prendrait position ouvertement contre ces lois. Ils se sont finalement piégés eux-mêmes dans ce jeu d'instrumentalisation de l'islam, et en ouvrant aussi le terrain à des acteurs désorganisés, se saisissant et les finalement entrant en concurrence avec eux sur le terrain de la radicalité religieuse.
Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous pour en parler. Merci Paul Rollier, anthropologue chargé de recherche au CNRS. Je cite votre dernier ouvrage, alors c'est en anglais, je vais essayer de le dire en français, L'outrage, l'avènement de l'offense religieuse dans l'Asie du Sud contemporaine, c'est aux éditions UCL, paru en 2019, et on mettra toutes les références sur le site. Laurent Gaillet, Le capitalisme à main armée, caïd des patrons à Karachi, a paru au CNRS édition, votre dernier livre, donc paru l'année dernière. Je rappelle que vous êtes chercheur aux séries de Sciences Po. Merci à vous deux. Tout de suite, c'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Et vous nous emmenez en Espagne, Catherine, et plus précisément en Catalogne, où depuis hier, les pharmacies distribuent gratuitement des produits menstruels réutilisables.
Culottes menstruelles, coupes ou serviettes en tissu, cet aspect durable est une première au monde selon la Generalitat. Le gouvernement régional catalan veut non seulement briser le tabou qui entoure encore les règles, souligne la RTBE, la radio-télévision publique espagnole, et le quotidien El Heraldo de Aragon. La Generalitat entend aussi lutter contre la précarité menstruelle, alors qu'une Catalane sur quatre est contrainte de réutiliser des serviettes ou des tampons à usage unique, l'indique El Periódico et le Guardian. Cela augmente le risque d'infection et de choc toxique mortel, sachant aussi, rappelle la RTBE, que les serviettes et les tampons peuvent contenir des pesticides, des composants en plastique nocifs pour la santé des filles et des femmes. Elles déboursent jusqu'à 2 500 € pour ces produits hygiéniques au cours de leur vie. Alors qu'opter pour des produits réutilisables réduit ce coût à 145 €, note El País et le Guardian. 2,5 millions de personnes peuvent donc, depuis hier, se rendre dans l'une des 3300 pharmacies de Catalogne pour obtenir gratuitement des produits menstruels.
Todos son productos menstruales reutilizables, dice la Generalitat que esta iniciativa viene a evitar la llamada pobreza menstrual.
Ce sont tous des produits menstruels réutilisables, insiste la RTBE. Selon la Generalitat, cette initiative permet non seulement d'éviter la précarité menstruelle, mais aussi de réduire de 9000 tonnes le nombre de déchets générés chaque année en Catalogne par l'utilisation de tampons et de serviettes hygiéniques à usage unique. La RTBE précise que ce plan s'adresse également aux hommes transgenres et aux personnes non-binaires ayant leurs règles. Le gouvernement catalan a débloqué 8,5 millions d'euros pour mener ce projet à bien. Et le succès est au rendez-vous, relève El País. Une pharmacienne de Barcelone explique qu'en une demi-heure seulement, hier, 7 personnes sont venues récupérer des produits menstruels réutilisables. File d'attente aussi en ligne sur l'application qui permet de bénéficier de cette gratuité en présentant un QR code individuel en pharmacie, précise El Periódico. En 2020, rappelle le Guardian, l'Écosse était devenue le premier pays au monde à offrir des produits hygiéniques gratuits, mais le gouvernement catalan se targue, lui, d'utiliser des produits menstruels plus divers et surtout réutilisables.
Aux États-Unis, Catherine, Donald Trump veut être intronisé champion incontesté des Républicains aujourd'hui même.
À l'occasion du Super Tuesday, ce mardi où 15 États organisent simultanément des primaires pour la présidentielle de novembre prochain, alors que l'électorat noir américain a joué un rôle clé dans la victoire de Joe Biden à la présidentielle de 2020, rappelle la BBC, Donald Trump tente de courtiser ses votants maladroitement, selon The Hill, en affirmant par exemple que les accusations criminelles qui pèsent contre lui peuvent séduire les électeurs noirs parce qu'ils comprennent la discrimination. Et puis la BBC a enquêté sur la manière dont des partisans de Trump ont partagé récemment des images d'électeurs et d'électrices noires, bras dessus, bras dessous, tout sourire avec l'ancien président républicain lors d'une fête ou sous le porche d'une maison. Près d'1,5 million de vues sur Facebook pour l'une de ces images diffusées depuis le compte d'une émission de radio conservatrice en Floride. Mais en y regardant de plus près, la peau de chacun sur la photo est un peu trop brillante et il manque des doigts sur les mains de certaines personnes, autant de preuves d'images créées par l'intelligence artificielle, révèle l'enquête de BBC Panorama. C'est l'une des tendances en matière de désinformation à 8 mois de la présidentielle, indique le média public britannique. Et contrairement à la campagne de 2016, marquée par l'ingérence étrangère, les images générées par l'IA cette année ont été créées et largement diffusées par des électeurs américains eux-mêmes, affirme la BBC. Le Congrès américain n'a pas encore adopté de loi, note The Hill, pour réglementer l'utilisation de l'intelligence artificielle en politique.
Et pour conclure, la presse internationale s'intéresse aussi à Donald Trump, disons sur un plan musical.
Le quotidien irlandais The Irish Times et le Washington Post nous apprennent que les ayants droit de Sinead O'Connor ainsi que la maison de disques de la chanteuse irlandaise décédée en juillet dernier ont demandé hier à Donald Trump de ne plus jouer sa musique lors de ses meetings de campagne. La chanson « Nothing Compares to You » que l'on entend a été jouée plusieurs fois lors de réunions politiques de Donald Trump. Sinead aurait été dégoûtée, blessée et insultée de voir son travail dénaturé de la sorte par quelqu'un qu'elle a elle-même qualifié de diable. Il aurait dû être traîné hors de la Maison Blanche, avait déclaré Sinead O'Connor lorsqu'il a séparé le premier enfant de ses parents à la frontière mexicaine. C'est ce que l'on peut lire dans les pages de Billboard Magazine. Les ayants droit de Sinead O'Connor rejoignent une longue liste d'artistes qui refusent de voir leur musique servir de bande-son aux campagnes de Donald Trump. Bruce Springsteen, Adele, Neil Young, Johnny Marr des Smiths, Tom Petty, Pharrell Williams, Phil Collins, Rihanna, Steven Tyler ou encore Elton John, c'est l'énumération fournie par le Washington Post, le magazine britannique The Week et la BBC. On ne peut pas tout avoir. You can't always get what you want. Voilà un autre titre que Donald Trump n'a pas le droit d'utiliser. Les Rolling Stones l'ont répété en 2016 et 2020, sous peine même de poursuites judiciaires, indique la BBC. Mais les artistes ont du mal à faire valoir leurs droits, explique le magazine The Week, car les équipes de campagne des politiques peuvent acquérir des licences spéciales auprès des géants de l'édition, comme BMI. Ils autorisent l'interprétation publique de millions de chansons.
Donc lui non plus ne peut pas obtenir tout ce qu'il veut. Merci beaucoup, Catherine Dutu.